Vous entrez dans les ateliers de la nuit. Chercher une chanson, c'est forcément une expédition. C'est déterrer un secret ou capter ce qui est dans l'air, invisible. Rien ne s'efface. Une chanson refera forcément surface. Revenons en arrière. Des chants ont été entendus, captés, enregistrés. On est en 2001. Deux amis d'enfance, Arthur B. Gillette, Thomas Puechavi, inventent un groupe qui s'appelle Moriarty. Ils ont 25 ans, finissent des études de sciences politiques et décident de partir sur la trace des origines du blues, en Afrique de l'Ouest, puis au Mississippi. C'est une collecte pour retrouver les origines, les chants non écoutés, les voix qui pourraient se perdre. En 2 ans, ils traversent 7 pays en Afrique et aux États-Unis. Ils écoutent, enregistrent, jouent avec des musiciens, chanteurs et chanteuses. Les secrets ne se transmettent pas comme ça. Il faut gagner la confiance des griots. Il faut prendre le temps, s'arrêter. Si on ne fait que passer, tout restera muet. On ne donne rien aux hommes pressés. Arthur B. Gillette et Thomas Puechavi ont dans la tête l'itinéraire de l'américain ethnomusicologue Alan Lomax, celui qui a enregistré leurs idoles depuis la fin des années 30 dans le sud des États-Unis. Il est le plus grand collecteur de musique qu'il a enregistré pendant 52 ans. Ce soir, ce seront des milliers de kilomètres parcourus. Cela fait plus de 13 ans que les chants dormaient dans un tiroir, mais hantaient leur imaginaire. Ce sont des récits d'attrapeurs de chansons, un journal sonore qui retrace la route parcourue. L'attrape-chanson, vrai-faux journal intime d'un apprenti ethnomusicologue par Arthur B. Gillette et Marie-Laure Ciboulet.
On est le 2 août 2002, ça fait un mois qu'on est à Como, Mississippi, près de Memphis. On est chez Sherman Cooper. C'est le fils d'une famille qui avant possédait des esclaves, une plantation. Et lui, c'est le mouton noir, il est tombé dans le blues dans les années 60. Là où on dort, c'est les anciennes baraques des métayers, et avant eux des esclaves. Il y a un ampli qui a appartenu au Canned Heat. Il y a plein d'objets de tombes indiennes aussi, pillés. Ça fait un mois qu'on est là, on a enregistré du gospel dans un lac, des chanteuses de gospel aussi dans une grange de la plantation. Un joueur de monocorde, Diddley Bow, qui a joué l'hymne américain. C'est aussi la première fois que j'ai tiré avec un pistolet et que je suis alcoolique. Ce soir, on est avec Our Boys et sa femme et tout le monde a beaucoup bu. Comme tous les soirs. Il est temps qu'on parte. Il est temps de rentrer.
Vous allez fermer vos bouches comme vous allez fermer vos pieds là. Taisez-vous. On est en train de faire l'enregistrement. Il est noir, il est complètement noir jusqu'à ce n'est pas possible.
L'attrape chanson. Vrai faux journal intime d'un apprenti ethnomusicologue.
Il est vraiment noir jusqu'à ce n'est pas possible.
Arthur B. Gillette. Marie-Laure Ciboulet.
Chemise noire, pantalon noir, cheveux noirs. Chaussures noires, peau noire, chapeau noir. Il est vraiment noir jusqu'à ce n'est pas possible.
Revenons en arrière. On est en 2001, les Bouddhas géants de Bamiyan ont été dynamités en Afghanistan. Les tours jumelles vont s'effondrer bientôt. On a 25 ans, on est deux meilleurs amis qui se connaissent depuis l'âge de 2 ans. Deux franco-américains qui ont grandi à Paris. On essaye de finir nos études de sciences politiques. On a inventé un groupe qui répète le mercredi et le samedi, qui s'appelle Moriarty. On a des disques fétiches de blues, de musique rurale, d'Afrique. On a en tête un départ, une aventure pour aller retracer les origines du blues en Afrique de l'Ouest et au Mississippi. Écouter, enregistrer de la musique en dehors d'une scène. Avec dans nos têtes l'itinéraire de l'américain Alan Lomax, celui qui a enregistré nos idoles depuis la fin des années 30 dans le sud des États-Unis. Muddy Waters, Fred McDowell, Sonny Terry, Josh White, et mon enregistrement préféré, Sunhouse avec le train à vapeur qui traverse la chanson.
Sunhouse habitait une plantation à quelques miles de là. C'était un homme de belle allure, intelligent et sensible. Par profession, conducteur de tracteur pour le compte d'un immense domaine cotonnier. Mais par inclination, musicien. Très modeste quant à ses propres réalisations. Quel âge avez-vous ? 39 ans. Et je peux plus me balader tout le week-end et travailler toute la semaine comme avant. J'ai autre chose en tête maintenant que le blues. En riant, il lança un clin d'œil affectueux à sa jolie femme à la pommade assise en face. Maintenant, si ça vous fait rien, je voudrais vous poser une question. Comment se fait-il qu'un blanc comme vous prenne sa voiture pour venir jusque dans le Mississippi discuter de blues avec un type comme moi ? Vous comprenez pourquoi je vous demande ça ? Ce n'est pas pour dire du mal ou pour vous faire de la peine, mais ça me tracasse. J'ai l'habitude de labourer tant d'hectares par semaine et de dire oui monsieur, non monsieur, au patron de la plantation. Mais pour ce qui est de m'asseoir à discuter de ma musique avec un homme instruit comme vous, je n'aurais jamais cru que cela m'arriverait, alors je voudrais mieux comprendre. Monsieur House était vraiment sincère, alors je répondis. L'histoire n'a pas été faite que par les rois, les présidents et ce genre de gens. Nous avons découvert que les gens qui labourent les champs de maïs et qui cueillent le coton y ont été pour beaucoup. Mon boulot, c'est de vous aider à faire sortir l'histoire de votre propre peuple. C'est bien, dit Son. C'est rudement bon à entendre. Son s'écarta pour contempler les champs de coton longuement, sans rien dire. Puis il se tourna vers moi et dit « Venez, je veux que vous fassiez connaissance avec mes gars et on essaiera de faire un peu de notre musique. »
To jonin o min bayliti morso jonin de lamru wadi morso mudum min jidi min pudda jonin morso wakkatu lamru wadi lamru awru goggirabe e babirabe la belto sanne wakkatu
valise avec des effets personnels $175 une mallette contenant un appareil contact $100 une machine mid tape avec accessoires $350 une caméra AIRS $75 deux matelas et sacs de couchage, $50. Un enregistreur stéréo 601-2 Ampex, $1000. Deux micros RCA D77, chacun $200.
Septembre 2001, on décide qu'il est temps de partir. Trois mois plus tard, on atterrit à Ouagadougou, au Burkina Faso, pays des hommes intègres. On a un contact sur place qui ne répond pas depuis Paris. Et pas de billet retour.
Septembre 2001, 6h30. Auberge du Samaritain, Ouagadougou, Burkina Faso. On est arrivé hier par le vol de Paris, tard dans la nuit. Ce matin, j'arrivais pas à dormir. Il y a Thomas qui dort à côté, alors je parle pas trop fort. Ce matin, il y avait le chant du muezzin. Ensuite, il y a eu les cloches de la cathédrale. Et puis des chats sur les toits en tôle. On s'est dit hier, en arrivant, qu'on allait enregistrer ce qui est beau. Ce qui est... qu'on voulait chercher ce qui était archaïque, si ça existe. C'est le jour 1 du journal. C'est le jour 1 du voyage. Aujourd'hui, on est allé au musée de la musique. Le conservateur parfait Zibo Bambara nous a fait la visite. Et après, il a fait venir un musicien Bissa, qui s'appelait Tabré. Il est venu avec un jeune enfant de 11 ans, un jeune garçon, qui lui servait à la fois de guide, d'interprète, de musicien aussi. Et on est monté au premier étage du musée. Et le vieux s'est assis sur une chaise, il est aveugle. Il a commencé à jouer une sorte de clarinette, une petite boule de 5 cm, avec un bambou, une petite membrane. Et le jeune garçon avec lui a joué une boîte en métal remplie de graines ou de riz. Ça ressemblait à un saxophone de free jazz avec une sorte de percussion à graines. Il nous a expliqué les chansons, mais on n'a pas compris grand-chose. Après, ils sont partis dans le crépuscule de Ouaga. Et on s'est dit qu'on voulait plus enregistrer dans un musée. C'est trop froid. Aujourd'hui, c'est la fin du ramadan, l'Aïd al-Fitr. On a erré dans Ouaga. Dans l'après-midi, on est tombé sur une petite baraque en zinc, comme deux chevaux posés à la verticale. On a bu du vin rouge dégueulasse, espagnol en briques, avec des glaçons. Et puis un type qui est arrivé sur son vélo, un instrument en bandoulière dans son dos. Il a posé le vélo contre un eucalyptus. Il a commencé à jouer. Et un autre type qui était au comptoir, Mamadou, a commencé à danser, à soulever toute la poussière rouge. Et le musicien s'appelait Seydou Traoré. Il nous a expliqué que son instrument, c'est un donzongoni. C'est l'instrument des chasseurs. C'est une calebasse avec un manche d'à peu près 1m50 et 4 cordes en fil de pêche de chaque côté. On n'avait pas l'enregistreur et Seydou a convenu de passer nous voir ici pour enregistrer. Mmh. 17 décembre, pas de nouvelles. Mmh. 18 décembre. Rien. Pas de nouvelles, on attend.
Il y a des gens qui sont, j'ai pas toute la journée.
Il est assez âgé pour être votre père.
On a un voisin de chambre et qui regarde les séries brésiliennes et les films d'arts martiaux japonais sur la télé dans le bar de l'auberge. Raymond. C'est un gambien qui a une trentaine d'années, il est fan de country pop US. Jim Reeves, Dolly Parton, Kenny Rogers. Il m'a aussi parlé de Frances Densmore. Une femme ethnomusicologue qui a enregistré des Indiens au début du XXe siècle.
Combien de temps vous accepterez ce genre de traitement? Vous payez la même somme que les autres. Pourquoi vous pouvez être traité différemment? La majorité des passagers de cette autobus est noire. Vous avez le pouvoir d'exiger d'être mieux traité.
I'm a doctor of music. Sort of an expert.
23 décembre. Auberge Samaritain, no news.
Comment avez-vous entrepris l'étude de la musique indienne? Étiez-vous une missionnaire ou une enseignante dans une école indienne? Ma réponse, quand j'étais très jeune, j'ai entendu un tambour indien. La première fois que j'ai entendu le tambour indien, c'était quand nous habitions à Red Wing, Minnesota. Notre maison donnait sur le fleuve Mississippi. En face de la ville, il y avait une île, et sur l'île, un camp de Sioux. La nuit, quand ils dansaient, on pouvait entendre le son du tambour et apercevoir la lueur du feu du camp. Au crépuscule, j'écoutais ces sons, au lieu de dormir.
Là, on regarde une compétition de musique folklorique à la télé. Et il y a une chanteuse qui s'appelle Tipu Kumba Lankoande, qui vient du pays Gourmandché. Il faudra qu'on aille enregistrer ça.
d'autres ont entendu le même tambour, mais l'ont vite oublié. Moi, je l'ai poursuivi toutes ces années. Inconsciemment, il m'a appelé, et je l'ai pourchassé à travers le continent américain, de la Colombie-Britannique aux Everglades en Floride, dans les plaines et les montagnes, à travers le désert. Toujours, le tambour indien m'a appelé.
Nous, on sait pourquoi on a choisi la musique dans la vie qu'on est en train de faire. Et tout ça là, il ne faut pas que nous, on compte ça. Nous, on n'a qu'à essayer toujours de progresser, foncer dans la musique. Il n'y a pas ce métier dans la vie. C'est à peu près comme ça.
Manji.
Le 24 décembre, en taxi entre secteur 19 et secteur 1 de Ouagadougou, Burkina Faso. On a eu un beau cadeau de Noël aujourd'hui. On vient d'enregistrer Seydou Traoré avec Sonzon Goni et Bema Kouyaté, joueur de balafon. On a marché une demi-heure avec le balafon à l'arrière d'un vélo et puis ensuite on a trouvé un taxi. Les rues sont trop étroites ici en sablé pour que le taxi puisse passer.
Où Son Momna, je l'ignore. En dévalant des routes poussiéreuses, en longeant une voie de chemin fer, on arriva derrière une épicerie de campagne vétuste, au relent de réglisse de cornichons et de tabac prisés. Il y avait là une bassine qui bouillonnait, il faisait si chaud que Son House et ses copains se mirent torse nu tout en jouant. De tous les moments que le blues m'a donné, celui-ci fut le meilleur. Il y avait un harmoniciste qui hurlait et gémissait dans son instrument comme un chien de chasse sur une piste brûlante. Il y avait un mandoliniste qui ne jouait pas de son instrument avec délicatesse, mais qui étirait des cascades d'accords argentés qui illuminaient la poursuite de l'harmonica comme le clair de lune des nuits torrides du sud au cœur de l'été.
Pendant que Thomas préparait l'enregistrement, Seydou a sorti une boîte de sa chambre, sa seule possession. Et dedans, il y avait une pochette avec des photos de lui en Europe, en Espagne, avec des blondes, des toubabs, les filles.
Un deuxième guitariste jouait en suivant les pieds paysans qui tapaient le rythme et transformait toute la maison en tambour africain géant.
On a joué avec eux aussi, Thomas à l'harmonica et moi à la dobro. Ils ont beaucoup aimé les sons de nos instruments. Nous, on n'a pas tout compris à leur rythme.
Au centre de tout cela, Son House, transfiguré, n'était plus l'homme calme et affable que j'avais rencontré, mais possédé par le chant, comme rendu aveugle par la musique et la poésie.
On a dû finir l'enregistrement au briquet. On est fatigué, mais on est vraiment heureux.
Prépare mon poney noir, celle ma jument baie, chantait-il. Ses paroles évoquant des nuits d'accouplement dans la chaleur tropicale du Mississippi. Sa voix, gutturale, rauque de passion, déchirait la surface de la musique. De même que sa charrue, enfoncée derrière le tracteur, déchirait la terre noire et humide au printemps, faisant couler la sève du champ de la terre, tandis que ses mains puissantes, durcies par le labeur, arrachaient d'étranges accords aux cordes d'acier. De même qu'à l'automne, elles avaient arraché tant de tonnes de coton au chardon des capsules de cotonnier. Et chez Son, le chagrin du blues n'était pas hésitant, ou réservé, ou ironique. Son corps entier pleurait, pendant que les yeux fermés, les tendons de son cou puissants soulevés par la violence qu'il ressentait, son visage brun enfiévré, il chantait d'une voix terrifiante le Death Letter Blues.
En novembre 2001, j'ai rencontré Hassan Kouyaté, un conteur, dans un bar du 19e arrondissement à Paris. Voici ce qu'il m'a dit. En ce moment, il y a 10 équipes de tournage au Mali qui vont faire des reportages sur la musique traditionnelle.
Ils vont passer 3 semaines, ils vont bien filmer, et puis rentrer, ils vont tous raconter la même histoire. Pourquoi ? Parce qu'il y a une version pour les étrangers. Le vrai est ailleurs. Moi, par exemple, je ne vous dirai pas tout. Mon grand-père, qui était un griot extraordinaire, n'a pas voulu me transmettre la plupart de ses secrets. Il m'a dit que j'étais resté trop longtemps en Europe, malgré mes retours fréquents. « Tu es un homme qui n'a pas le temps », me disait-il. Maintenant, il est parti sans me transmettre. Il avait toujours un aigle au-dessus de sa tête. On est le 31 décembre, il est 5h du matin et on est en train de préparer tout notre matériel pour aller au nord du Burkina Faso. Il y a un festival de musique organisé par l'association de promotion des éleveurs du Sahel et du Sahara.
Casque stéréo, $50. 3 pieds de micro, $150.
2 lecteurs de midi.
5 câbles, $30.
Il y a celui-là.
Un chargeur de batterie, $10. Un convertisseur de vibration, $45.
On a 2 micros ukrainiens.
2 pinces micro, $10.
On a la boîte avec tous les mini-disques. On a des grosses boîtes en plastique pour protéger de la poussière.
50 bobines de bande magnétique 12 pouces, $110. Un convertisseur rotatif, $100. Une guitare Martin, $150.
Le problème, c'est que les mini-disques, ils sortent des...
Un banjo Essex.
Ils tombent des boîtes.
$75.
Voilà.
Une machine à écrire de Studio Olivetti, $110.
Moi, j'ai 2 appareils photo.
Une valise avec 2 costumes, 6 chemises, serviettes, etc. $150. Liste des possessions et de l'équipement transporté en voiture pendant le voyage dans les États du Sud. Total, $3,784.
Dans un village en pays Gourma, à la frontière entre le Burkina et le Bénin, on rencontre un jeune flûtiste Peul. Il a vendu sa flûte au musée, mais il en a fabriqué une nouvelle avec un tuyau en PVC. Ce sera peut-être le plus beau son de flûte qu'on entendra pendant tout le voyage. Angelina avec Blandine et les poules. Thomas aujourd'hui. Km en 10 jours.
Le problème de la technique d'enregistrement m'obsédait jour et nuit. Mes insomnies étaient hantées par des questions telles que: comment dois-je procéder? Comment adapter mon équipement? Qu'est-ce que j'oublie? Est-ce que ça va marcher? Souvent, je me réveillais, griffonnais quelques idées et me rendormais. Le lendemain, je regardais ce que j'avais noté pour voir si c'était utilisable.
On a écrasé des petits cochons avec la deux chevaux. Bambadje, ilalai, bambadje. Bambadje, ilalai, bambadje. Mambambalani, oye, ilalai, fal. Un article de l'ethnomusicologue franco-israélien Sima Arom, l'étude des polyphonies dans la revue Ethnomusicologie.
C'est en 1972, lors d'une énième mission en Centrafrique, que je me mis à employer systématiquement la technique de re-recording. Après l'enregistrement conventionnel d'une pièce polyphonique, je procédais à celui de chaque musicien séparément. En général, ce sont les instruments à percussion qui commencent. Ce sont eux qui établissent le soubassement rythmique sur lequel les voix et les instruments mélodiques vont se caler. Je disais, celui qui commence, on va lui mettre un casque à travers lequel il entendra ce que vous avez joué tous ensemble. Et il va simplement rejouer sa propre partie, ce qu'il faisait. Je commençais ainsi à entrevoir les principes d'organisation de ces polyphonies.
Ce morceau s'appelle Mamtare en polar. Ça veut dire développement.
C'est bien comme ça?
Ouais. Développement, on ne peut pas se développer sans apprendre. Il faut apprendre les enfants. Tu travailles aujourd'hui pour pouvoir se développer demain. Voilà, c'est le sens du morceau. Okay. Voilà. Ça s'appelle Bamtare. Un peu là. Un peu. Bamtare. Le morceau s'appelle Bamtare.
Monique, une ethnomusicologue, nous a dit qu'au Tchad, les islamistes wahhabites cassent des instruments de musique.
Acceptait avec bonne humeur les demandes saugrenues du chercheur blanc, mais il était clair qu'il comprenait ce que je voulais et que cela les faisait réfléchir. ne serait-ce que la situation insolite dans laquelle ils se trouvaient subitement placés. Les pygmées, par exemple, qui, depuis leur plus tendre enfance, avaient l'habitude de toujours chanter ensemble, se retrouvaient soudain à chanter seuls à tour de rôle, pendant que les autres alentour les écoutaient. C'était peut-être la première fois de leur vie qu'ils s'entendaient chanter isolément. Si l'utilisation du casque fut accueillie par des collègues ethnologues avec des remarques désobligeantes du genre « Comment peux-tu leur mettre des casques sur la tête? Comment peux-tu en faire des sujets d'expérience? Ce ne sont pas des fourmis, ce sont des hommes, tu fais pas de l'entomologie. » Pour les musiciens locaux, ce procédé se révéla au contraire extrêmement valorisant. Auparavant, seul l'Européen en faisait usage. À présent, presque tous pouvaient en disposer, porter un casque devant tout le village conférait un prestige certain.
Pendant ce voyage initiatique, nous rencontrerons des musiciens, des chanteurs, des chanteuses. Parfois nous jouerons avec et parfois non. Au début, nous tenons des carnets précis avec le recensement des instruments, la façon dont ils sont fabriqués, le recensement des chansons, les traductions, les noms des interprètes, et petit à petit cette distance nous étouffe. Nous sommes venus avec un harmonica, une guitare, et nous nous sentons de moins en moins apprentis ethnomusicologues, de plus en plus musiciens.
Lorsque j'enregistrais dans un village, il se trouvait toujours quelques badauds silencieux pour nous observer qui, lorsque j'avais terminé, m'interpellaient. « Mais pourquoi ne viens-tu pas dans notre village? Chez nous aussi, il y a de la belle musique. » Ou encore « Pourquoi tu viens pas nous faire jouer avec les caciquis ?» En pratique, ce n'étaient pas seulement ceux qui chantaient qui portaient des casques. Dès le début, j'avais prévu un système de contrôle. Car si durant le re-recording, le musicien et moi-même sommes les seuls à porter un casque, comment contrôler le bon déroulement de l'enregistrement? Dans un tel environnement expérimental, le chercheur n'est plus l'expert qui dirige les opérations. Les gens avec qui il travaille deviennent de véritables collaborateurs scientifiques. Il le faisait avec un grand sérieux, comme des professionnels. Et le groupe de contrôle joue un rôle décisif. Avec ce dernier, notre relation était strictement visuelle. J'ai toujours regretté que ces moments de connivence n'aient pas été filmés. Je ne cessais de les consulter du regard, comme pour leur demander « ça va ?» Il hochait la tête pour signifier « tu peux être tranquille ». Mais lorsque l'un d'eux penchait la tête avec un mouvement dubitatif et qu'un autre faisait aussitôt un mouvement semblable, j'arrêtais l'enregistrement. « Il s'est trompé, il est entré trop tôt, il est entré trop tard, il a confondu sa partie avec celle d'un autre ». Ainsi, l'une des conséquences de cette méthode était de faire émerger du non-verbalisé que personne n'aurait évoqué autrement. Souvent, le musicien, surpris, protestait. « Mais j'ai bien joué !» À quoi je répondais « Écoutons ce que tu as fait. » Et les autres montraient alors du doigt à quel moment il s'était trompé. C'était imparable. Bien entendu, lui aussi s'en rendait compte. Alors je rembobinais et l'on reprenait. Si malgré tout, une erreur était passée inaperçue, le musicien suivant, en arrivant sur la faute de son prédécesseur, marquait une hésitation. Troublé, il bégayait en quelque sorte. J'arrêtais l'enregistrement et en le réécoutant, je comprenais souvent la raison de son trouble.
Le journal sonore s'arrête ici. Le voyage nous a pris, on a changé de nom, de coiffure, métamorphique. On a pris des intonations de langage et on a mangé avec les mains. On s'est perdu, on a fait nos armes. On a combattu le vent et les mouches qui se posent sur nos micros. Et on a découvert des dispositions du code pénal inattendues. Au début de l'année 2002, un gendarme burkinabé nous dresse une amende pour acrobatie sur la voie publique, que je garde toujours précieusement sous mon lit, avec le reste des notes, mini-disques et photographies de ce voyage. On apprend à enregistrer, toujours guidé par le fil du blues, mais on commence à douter de la possibilité d'une pureté musicale. Les cassettes circulent, bientôt ce seront des téléphones portables remplis de sons et chansons du monde, et en particulier des États-Unis. Un groupe de jeunes musiciens peuls de Dori au Burkina Faso arborent des t-shirts de Tupac et du Wu-Tang Clan, et on se demande s'ils ne s'en inspirent pas dans leurs chansons traditionnelles. La réinvention est en marche et elle est belle.
No, Jeff. She's crazy. I've been lugging this thing everywhere it don't belong. I'm not risking life and limb for no stupid song.
I need these recordings. I need them, right? Tonight, yes.
Un jour, dans la campagne profonde, en pays Lobi, au Burkina, toujours, on s'enquiert d'un balafon particulier qui joue les mêmes notes qu'un piano blues qui jouerait du boogie-woogie. Tout excité par l'idée de trouver enfin une rareté musicale, quand un vieux monsieur qui assiste aux enregistrements s'exclame « Mais ça, c'est du Ray Charles !» Sans eux, nous autres, attrapeurs de chansons ou ethnomusicologues ne seraient rien. Les interprètes, les guides, anges gardiens, arnaqueurs, collaborateurs scientifiques, connivence, Rasman Zungo, Léon Da, Vieux, Évariste, David Evans, Sherman Cooper. Un jour, nous sommes avec une animatrice de Radio Mani, Téné. Elle a fait venir depuis la campagne le malicieux Bala Diakité, joueur de piano à pouce et chanteur. Elle joue l'interprète. Alors qu'il explique le sens d'une chanson qu'il vient de chanter en Bambara à propos de comment il est devenu musicien, parce qu'un jour il a touché une calebasse appartenant à de petits diables. Téné traduit. Puis soudain, Baladia Kité l'attrape par le bras et faisant signe en direction de Thomas, qui a le casque sur les oreilles pour vérifier le niveau d'enregistrement, s'exclame. Elle rit, nous ne comprenons pas. Elle traduit. Les diables ressemblent précisément à Thomas. Tout le monde rit et Baladia Kité vient de nous glisser que nous ressemblons au diable.
Donc, j'ai envie d'aller laver parce que, comme lui, il a touché au calebasse, donc l'odeur de sa mère coule sur la calebasse. Donc, lui, il n'a qu'à aller laver.
Voilà. Tenez, il est là, je vais aller maintenant. Ne vois ni chez Kota, ni le Goya, haram ni la dinima. Mais l'intérêt, à ma bonne, mais ni.
Et si quelqu'un des diables qui l'a donné, ça ressemble à toi, quoi. Donc s'il te voit seulement, il pense à ce
diable. Depuis le cas de l'autre, on sera là pour
lui. Donc ce sont les diables qui l'a appris comme ça.
Hello. chomping on the carrots.
Chomping on the carrots.
Pinching on the parsley.
Pinching on the parsley.
And munching on the melatons.
I'm munching on the melatons.
And you have no idea whatsoever what a melaton
is.
Ça y est, on est en route pour le Mississippi, on est le 4 juillet, c'est la fête nationale des États-Unis. On s'est dit que c'était le bon moment pour ouvrir notre cadeau de Noël. Et Laurent, il nous avait donné un cadeau avant qu'on parte. Et comme on n'aime pas Noël, on ne l'a pas ouvert à Noël. Donc on va l'ouvrir maintenant. Voilà, c'est notre Noël. Fête nationale des États-Unis, Noël en même temps, c'est parfait. Un mini disque. On n'a même pas d'autoradio dans cette voiture, donc on va le mettre sur une petite enceinte.
J'ai fait cette petite compilation un matin de décembre. Gris et j'espérais avoir du soleil, donc tout ce qui compte pour moi c'est que vous puissiez écouter cette musique quelque part au soleil et que ça vous serve. Il est à peu près 13h, Paris, méridien de Paris, et je vais aller m'occuper de mes petites affaires parisiennes. À l'heure où vous écouterez ça, peut-être que je ne serai plus là, peut-être que je serai toujours. L'important, c'est que Thelonious Monk vous accompagne jusqu'à la fin. Et ça, c'est très important.
Restons un mois et nous nous achetons une Ford Aerostar défectueuse pour $600. Après l'Afrique de l'Ouest, le changement est violent. Nous, jeunes franco-américains, l'un fils de californienne, l'autre fils de bostonienne, nous pensions arriver en terre connue. Mais nous nous sentons peut-être plus étrangers dans la culture afro-américaine du sud des États-Unis que dans les différents pays d'Afrique où nous avons séjourné.
Vous savez quoi, il me reste une seule clope. Je n'ai plus qu'une seule clope. Et ben, je vais la fumer avec vous. Voilà. Ça, on aura fumé ensemble le soir du 24 décembre. C'est pas mal, non?
Le 3 juillet, David Evans, un musicologue américain, nous appelle pour nous avertir qu'il y a un pique-nique pour célébrer le 4 juillet, la fête nationale, pour lequel on entendra du Fife and Drum, une vieille tradition très afro-américaine, une réinvention jouée avec la flûte et les tambours de l'armée anglaise, complètement africanisée, complètement syncopée.
Yes, sir.
Do you think you can do more, or do you think you can slack off a little bit
when you sing? No, but what makes it go so better when you're singing, you don't have, you might not forget, you see, in the time that's passed on away. But if you just get your mind devoted on one something, it look like it'd be hard for you to make it. See, make a day be long, look like. So keep your mind from being devoted on just one thing while you just practice take up singing. See?
Après le dîner, la séance d'enregistrement de Parchman se poursuivit à l'extérieur. On nous emmena dans une petite salle nue à l'écart, loin du bruit, pour y enregistrer sous la surveillance de deux braves gens du cru, l'un avec un pistolet sur la hanche et l'autre avec un fusil à canoncier posé sur les genoux. Alors entrèrent les hommes que j'avais fait appeler, Dobby Red, Bull, 22 et Bama. Bama, qu'on disait être la star des chanteurs du pénitencier. Il s'était joint tard à la séance et l'on avait peu entendu de lui. Bama était grand, la peau marron orangée brillante, beau gars et souple comme une panthère. Sa voix coulait tel un doux trombone et son rire, pour blanc, qui sortait entre les couplets, faisait écrouler tout le monde. Bama expliquait. Nous sortons vers le lever du soleil et nous chantons presque tout le temps que nous désherbons un fossé. Je questionnais. Et qu'est-ce qui se passe si vous travaillez dans les bois avec des haches? Si vous hachez toute la journée, est-ce que vous chantez toute la journée? Oui, monsieur. Il y aura quelqu'un qui chantera toute la journée. Tout individu qui s'est coupé avec une hache, il sait chanter. Pensez-vous que vous pouvez relâcher un peu la pression quand vous chantez? Non, monsieur. Voilà pourquoi ça va tellement mieux quand on chante. On pourrait presque oublier et le temps fait que passer. Oh, Rosie. Oh, Seigneur petite. Tiens-toi à la promesse que tu m'avais faite. T'allais pas te marier jusqu'à ce que je sois libre. À hacher dans le bas, avec 100 ans à faire, l'arbre me tombe dessus, j'en ai rien à faire. Oh, Rosie. Oh, Seigneur petite. Voilà, de la poésie qui résonne comme un marteau sur une enclume, qui mord au cœur, qui trille comme un oiseau. Bonjour, le blues. Le blues, comment ça va? Bonjour, le blues. Le blues, comment ça va? Je me sens joliment bien, mon pote. Et toi? J'avais écouté au fil des ans du Bach, du Beethoven et du Stravinsky. Mais ici, par un après-midi de juillet, sur les plaines humides de la Brazo, au Texas, le chant de ces détenus dans leur habit rayé de honte fit mieux que ces symphonies. Depuis l'enfance, j'avais baigné dans Shakespeare. Il y avait ici une langue aussi noble et parfaite que la sienne. Lève-toi, homme mort, et aide-moi à mener mon rang. Je scrutais les visages noirs et couverts de poussière des détenus qui chantaient. La honte et la colère se déversèrent sur moi. Ce sont mes frères, ne cessais-je de me répéter. À partir de leur douleur, ils ont créé un fleuve de chants. Comment pourrais-je leur revaloir cette beauté si durement gagnée?
What's up, man?
Hey, how you doing?
You got a job or something, man?
What?
Did you get some weed or something, man?
I don't have nothing.
You got a weed?
No. Do you have any?
Huh?
Do you have any weed?
No, I need some goddamn weed. What the hell is this?
That's a recorder.
What you recording, shit?
I'm recording.
Aujourd'hui, bien des années plus tard, tandis que j'écris ceci, mon opinion n'a pas changé. Voici les rebelles contre le Sud, pensais-je. Les mauvais négros, ceux qui refusaient d'endurer le sort d'un noir en douceur et avec des sourires complaisants. Ils se sont jetés aveuglément tête la première contre un système de loi administré pour le bénéfice d'un autre groupe et qui leur offre faible protection et grande humiliation. Clairement, leurs gardiens les traitaient comme s'ils étaient des révolutionnaires, non des criminels. Oui, pensais-je, si ces mêmes gardiens aux traits durcis qui m'adressent des sourires aigres parce que, étant blanc, je devrais partager leurs préjugés, si cela pouvait voir dans mon cœur, ils me traiteraient comme un prisonnier noir qui osait les mettre en question. C'est pourquoi je cachais mes sentiments.
Well, the common view is that there is no culture here, and that the people are dirty, ignorant, and savage.
You forgot illiterate and inbred. The only way to preserve our way of life up here is to keep your way of life down there.
That is the way that you kill something, by shutting it up.
You know what, you just don't understand, and you never will. We just want to be left alone, see?
Then the mountain ways will die.
We'll see.
Yeah. Uh-huh. I heard an evangelist say once that
You can be baptized so many times in water that the fish know you when you get down there. Go in the water, a dry center, and come out a wet center. It's something that has to happen in your heart before you ever get here to the river. This is just a symbol of what we have on the inside, and this is not the cleansing of it. And even after this baptism is over, we're going to have to continue on in God's word. Being saved is simple enough. Get your Bible. Read it. Whatever the word of God said, do, do it. Right. And what it tells you not to do, leave it alone. Yeah. In obedience to God's word, into the great head of the church, yeah. I baptize this woman in the name of the Father, in the name of the Son, and of the Holy Ghost. Yes.
Yes. Oh, yeah.
Take me to the water. Take me to the water.
Take me to the water.
Aujourd'hui, le monde est dans le trou. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calominateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de Dieu.
La musique que j'apporte aujourd'hui n'est qu'un écho.
Ça voudrait dire saluer tout le monde.
Ces chansons sont des chansons d'hier.
Je salue tous les techniciens de la musique.
Les vents des prairies et de la forêt ont entendu beaucoup d'elles pour la dernière fois. Dans quelques années, les chansons et les chanteurs seront oubliés.
On est là, en Afrique.
Les plaines où l'Indien chassait les bisons sont peuplées par des villes. Les forêts où il piégeait des cerfs fondent. Le sifflet de la locomotive casse le silence étrange des sommets des montagnes.
Il est devant nous, un technicien, un frère.
Le Niagara est captif. Nous avons conquis la nature, mais qu'en est-il de ces enfants sans mère? Nous les avons rendus captives. Nous avons épargné leur vie, mais le destin qui décrète que la race faible doit toujours laisser la place au plus fort a condamné l'Indien à subir une dégénérescence et une torture lente jusqu'à une extinction finale.
Voilà, on est à la maison de la radio, studio 115. On est le 12 mars 2015. Il est 10h15. C'était l'attrape chanson, vrai faux journal intime d'un apprenti ethnomusicologue. Jason Tawas est en train de mixer avec Marie-Laure Ciboulet qui a réalisé. Valérie Lavalard a enregistré les voix de Emmanuel Matt qui lisait Le pays où naquit le blues de Alain Lomax, traduction Jacques Vassal, édition Les Fondeurs de Briques. Fred Poulet lisant Sima à Rome, la fanfare de Bangui, édition La Découverte. Et Shelley Whittingham lisant l'autobiographie de Frances Densmore. Vous avez entendu des enregistrements de terrain réalisés entre 2001 et 2002 par Thomas Puechavi et moi. Vous avez entendu par ordre d'apparition quelques musiques et chansons qu'on a attrapées. R.L. Boys, Mamadou Abouba et Amadou Gay, le groupe Denke Denke, Koudou et Alidou Tabré, Tipu Kumba Lanko Ande, Seydou Traoré et Bema Konate, Kumban et le groupe Sahel Blues, Abdoulaye Soura, Yabila Ware et son groupe, Racine Diabaté, Léonda, Adama Balo, Boussim Zibourla, Bala Diakité, Madame Bamba Touré, dite Téné, les groupes Liptako et Mansina Koidani, les femmes de la famille Noufebo Epté, Bertha Lee et Claudia, Adela Gauthier, Glenn Faulkner, Willie Hurt et Black Prophet. Atelier de la création. Coordination Alice Ramon, Inès De Bruyne et Irène Omelianenko.
Jean, quel temps était là? Ah, disons toi tu joues encore.
Non, rien.
Ouais.
Ça un peu fou quoi.
Ouais, pas, mais... c'est pour ça je peux pas l'accorder aussi. Ça va faire casser les cordes.
Mais si tu t'accordes un truc en dessous.
Ben non, parce qu'il faut que je me mette en mi. Pour que je puisse copier ce qu'il fait, quoi.
C'est pas très grave.
Ça va, 9 comme niveau, c'est bas, non?
Il faut voir la barre, là. 9, ça me semble correct.
Bah, elle tape souvent dans le noir, quoi.
Have you finished?
No, I'm asking you, do I make sense?
Have you finished? I'm not sure whether it makes sense or not. Have you finished?
People have opportunity
Wait,
to do shit.
Wait, have you finished?
All.
Have you finished?
Vous pouvez réécouter cette collecte de chansons enregistrée en 2001 en Afrique de l'Ouest et au Mississippi aux sources du blues. L'attrape chanson, vrai faux journal intime d'un apprenti ethnomusicologue. Tout est sur le site internet de France Culture. Demain soir, dans l'atelier du son, nous continuons les paysages sonores et nous restons en Afrique. Thomas Baumgartner reçoit la créatrice sonore Aurélie Liermann, installée à Bruxelles, originaire du Rwanda, qui travaille sur les sons de ce pays, au-delà des stéréotypes ou des choses entendues.